Karine. Bon, alors en fait, c'est pas ça ta couleur, genre ça.
Salut.
Bon, allez. Non, mais de toute façon, c'est une grosse journée de merde qui continue.
Mais non. Ça va être une belle soirée.
Ouais, parce qu'on a des trucs sympas à vous passer dans cette émission, notamment l'interview du bon Bix Mori Collective.
Collectif
d'écrivains.
Oui, tout à fait. Quatre étudiants qui se sont pris de passion, en fait, pour écrire une petite nouvelle là, sortie chez La Volte.
Et donc, tu les as interviewés aux Utopiales.
Voilà, exactement.
Sébastien, lui, va nous parler avec la personne en question, Ames, qui est quelqu'un qui fait de la littérature interactive sur les réseaux. Ouais, on va dire ça comme ça. Bon, ils vous expliqueront ça.
C'est un streamer, si j'ai bien
compris. Entre autres, ouais, mais là, c'est une espèce de fiction sur laquelle on peut intervenir sur les réseaux sociaux. Et puis toi, tu vas nous parler d'un bouquin.
Exactement. Je vais vous parler des objets maudits d'Emily Norsken aux éditions Les Trois Nornes.
Et on commence tout de suite en musique. On est dans le studio de Radio G, donc on n'est pas à la soirée Dario Argento de premier plan. Mais on va quand même s'écouter un extrait du film qui est en train de passer en ce moment même au pâté. Ah. C'est Ténèbres, un giallo de Dario Argento. C'était en 82, il s'est dit tiens, je vais rappeler Goblin et tout pour faire la musique de mon film. Comme d'hab, manque de peau, Goblin avait splitté. Donc les musiciens ont quand même accepté de se réunir, un peu comme le Bombix Collective que t'as interviewé tout à l'heure. On en a eu 3 sur 4, et ben là c'est pareil. Il y avait 3 Goblin sur 4 pour signer la BO de Ténèbres. Simonetti, Pignatelli, Morante, et on s'écoute le morceau Flashing sur Radio G. Ouais, alors ça met un petit peu de temps à démarrer parce que c'est, je te dis, un giallo, c'est un film qui fait peur et tout, donc voilà. Thank you. un trio d'ex-goblins, donc pour la BO de Ténèbres dans l'imaginaire sur Radio G. Je parlais de la soirée de Dario Argento. Vous pouvez quand même aller voir Quatre Mouches de velours gris qui enchaîne à 22h15 au Pâté. Ah.
Donc, avec les objets maudits, nous sommes projetés dans un royaume, quatre lunes, et tout particulièrement dans le parcours d'un personnage, Novem. Dans ce monde où les objets nourrissent des émotions négatives de leurs propriétaires, les envoûtant jusqu'à les posséder et se transformer en grands cuirasses, des créatures terrorisant les habitants, Novem, jeune chasseur au service de l'antiquaire Janus, va se rendre sur ordre de la reine Roseronce à la forteresse de Valtur pour éliminer un rancura en particulier. Mais cette quête ne sera pas la seule puisqu'il affrontera un bon nombre d'épreuves et en particulier son passé. Nous allons donc suivre de très près son évolution qui est pour le moins très intéressante. On apprend également un peu plus sur les chasseurs eux-mêmes, l'origine de leur pouvoir leur permettant de détruire les rancuraces. Les chapitres débutent par des articles, des extraits de journaux qui donnent à chaque fois des indications sur le contexte, ce qui montre un beau travail d'écriture pour que la lecture n'en soit pas alourdie, car ce roman se lit très bien. La plume d'Émilie est fluide, la construction des chapitres est dynamique et l'intrigue est envoûtante. Les personnages sont touchants, complètement humains à travers leurs qualités et leurs défauts. On les aime, on les déteste. En somme, voilà un beau portrait de la complexité des êtres humains. L'autrice met en avant des personnages LGBTQIA+, et inclusifs, notamment Novem, qui est non-binaire. L'autrice aborde un panel de sujets importants, notre rapport aux objets, très joliment ou pas, car l'ambiance se veut horrifique, illustrée par les rancuraces, l'anxiété et la santé mentale d'une manière générale, les mauvaises décisions qui peuvent parfois être irréversibles, et le pardon. Quelques avertissements sont mentionnés avant le début de la lecture. Le roman traite aussi de violences physiques, psychologiques, graphiques, de suicides et d'insectes, à mettre donc dans des mains d'un public adulte et averti. Les objets maudits est un bon roman de fantaisie horrifique qui, par les sujets que l'autrice aborde, est très psychologique et dense, tant sur les différents personnages et leur complexité que le contexte extrêmement bien détaillé. Émilie Norsken est une autrice elle-même non-binaire. Elle prend le goût de la lecture à travers les jeux vidéo et se prend de passion pour l'écriture à travers des récits collaboratifs et des jeux de rôle. Les objets maudits est son second roman, le premier étant une couronne d'os et d'épines publiée par les Trois Nornes également. Je vous invite chaleureusement à découvrir cette autrice et ses écrits. J'ai très hâte de voir dans quelle aventure elle pourrait nous embarquer pour un prochain roman. Je vous laisse avec le groupe de black metal irlandais Primordial et leur chanson « To Hell or the Hangman » sur Radio G.
Primordial.
Oui, c'est mieux.
Dans l'imaginaire. Et c'était un extrait de leur 9e album en 2018, Exile Amongst the Ruins. The Ruins. Allez, on passe à la chronique de Seb.
Salut, c'est Ems pour Radio G. Depuis plusieurs années, je fais du streaming sur Twitch et surtout du let's play de livres-jeux où le public est aussi acteur, le principe de livre dont vous êtes le héros. Depuis toujours, je cherche à cultiver des manières interactives de raconter des histoires et je le faisais bien avant Twitch, à l'oral comme à l'écrit. Et cela fait un petit moment que ça me tanne, que je réfléchissais à l'utilisation d'un réseau social dans cette optique. Et c'est pourquoi, en décembre, j'ai expérimenté sous forme d'un calendrier de l'Avent une petite web-histoire sur Facebook où le public intervenait dans les choix, mais aussi dans la narration, en proposant des mots dans une histoire que j'ai inventée, très inspirée de l'histoire sans fin, et que j'ai improvisée au jour le jour. Comme j'ai pris beaucoup de plaisir dans cet exercice et que j'ai eu des retours très positifs, j'ai décidé de reprendre le concept, de l'approfondir en adaptant une aventure dont vous êtes le héros non achevé que j'avais écrite en 2021, et très inspiré par la pandémie qui était alors au plus fort. Il y a plusieurs choses qui me motivent dans ce nouveau projet. D'abord, j'aime raconter des histoires, j'aime proposer des choix, et je me délecte de lire les réactions et de m'en inspirer. Aussi, j'avance toujours mieux sous pression en proposant chaque semaine une suite écrite au fil de l'eau, et je me sens bien plus stimulé comme ça qu'en écrivant juste pour moi et sans échéance. Ici, dans les dessous de Bibalone, j'ai un univers, ses principes, l'idée d'une intrigue générale, mais je tiens à créer quotidiennement la trame et j'essaie aussi de me laisser surprendre par les idées et les envies du moment. J'essaie donc de créer de la matière chaude, de la matière vivante forgée au jour le jour par mon imagination et par celle du public, qui est un acteur essentiel. Et quand je dis que le public est le héros, ce n'est pas qu'une formule toute faite, car rien n'est gravé dans le marbre jusqu'à l'instant où je tourne. Et d'ailleurs, je retouche souvent mon texte à la dernière minute. Enfin, les livres dont vous êtes le héros ont historiquement beaucoup manqué d'aventures, d'anticipation, de science-fiction et surtout de qualité, et moins encore en français d'ailleurs. Hein. Et c'est clairement un genre littéraire qui, moi, personnellement, m'inspire et me motive, car son ancrage dans la réalité m'oblige à tirer les fils de ce que l'on vit au quotidien, de ce qu'on peut entendre dans l'actualité scientifique et technologique dont je m'inspire. Allez-vous découvrir les dessous de Babylone, entité tentaculaire qui a confiné et mis sous contrôle le monde entier ? Pour le savoir, rendez-vous tous les jeudis ou vendredis à 18h sur ma page Facebook M66, AYMS66, pour vivre et faire vivre cette fiction dont vous êtes les héros. Et merci encore à Radio G pour cet espace d'expression sur la créativité et les imaginaires.
Explorez les dessous de Babylone. Et ce chaque jeudi, depuis celui du 11 janvier, telle est ton invitation, cher Ems. Une aventure vidéo et illustrée de dessins libres de droit dont vous êtes les héros sur Facebook. La dite aventure aurait pu figurer dans le sommaire de l'excellent recueil d'histoires futuristes tant à jouer qu'à méditer, Alterférence, paru dans la gamme Litteraction d'Alconost. L'ouvrage Alterférence, d'ailleurs, est finaliste, les amis, je vous l'apprends, du prix du livre-jeu 2023 au Festival international des Jeux de Cannes en février. J'aurai l'occasion de vous en reparler, des dessous, de cet ambitieux opus d'anticipation avec un des trois auteurs prochainement sur le 101.5. Auteur français. Danou, elle de VLH par ailleurs, propose des vidéos de lecture je teste de chacun des écrits d'Alterférence référencé sur sa chaîne YouTube dans la rubrique La Matinale avec Danou. Un petit coucou au passage, Danou. Ce que je retiens de suite des deux premières vidéos d'Ems d'environ 6 minutes en durée, c'est le point de départ qu'un spécialiste des sketchbooks tel Gauthier Wendling, un ami d'imaginaire, n'aurait pas renié. S'évader de son appartement, confiné, quasi cloîtré que nous sommes, à cause d'un virus mortel dans l'air, le Codiv-23. Et pour y parvenir, il faut nous équiper d'un objet indispensable, le Zistroma 3000, une combinaison hors de prix, parfaitement étanche au virus. Non, 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 nous ne sommes pas dans le mercenaire de l'espace, un défi fantastique de la fameuse collection éponyme, abordé par des collègues d'imaginaire lors d'une super émission spéciale Games Workshop. Émission du 28 novembre à réécouter les amis en podcast sur le site de radioG.fr. D'entrée, M se conjugue son goût du mélange des genres de livres-jeux. Bibalon, un tentaculaire réseau social numérique créé pendant le confinement, sert à communiquer avec le monde extérieur et séquence notre vie dans les moindres aspects. Déplacement, télétravail, envoi de colis alimentaires par des droïdes livreurs, etc. Mais Bibalon, n'a-t-il pas été piraté? Une des questions que je me pose. En voici d'autres. Est-ce même une intelligence artificielle qui gagne en autonomie, Bibalon, comme celle du fameux livre dont vous êtes le héros, de la série Destin, L'hiver des hommes, chez Alconost? La Terre que nous connaissions, après de longues années de confinement, n'est-elle pas devenue pour nous un monde étranger? Il va être difficile pour notre héros, ou héroïne, de dire non à un tirage au sort anniversaire pour gagner une précieuse combinaison. Synonyme, comme vous l'avez compris, de liberté retrouvée. En fait, un nouveau modèle, supérieur aux Istroma 3000, antivirus, la 4000. En sus de cet enjeu, auquel nous sommes confrontés très tôt, j'apprécie comment M se détaille savamment sa dystopie. Pour exemple, il y a la minutieuse description du sas de désinfection Bibalbox, soit la porte d'entrée, devenue une porte de sortie, de notre appartement, qu'il ne nous est pas permis de franchir si on n'a pas une protection. La fameuse combinaison, sous peine de mort le cas contraire. Et le temps presse, car une patrouille de dravatars bleus, des policiers robots, pénètre dans notre immeuble, certainement pour nous arrêter, en raison de la combinaison unique gagnée. Sur ce, à vous, amis auditeurs, de rejoindre l'aventure dystopique feuilletonesque de Les Dessous de Bibalon, avec le choix donné de la fuite, soit par les escaliers, soit par l'ascenseur, à l'aide du choix d'une émote, en dessous de la vidéo qui est publiée sur la page Facebook d'EMS, tout en ayant la possibilité, et ça, c'est un vrai plus, de suggérer par commentaire à EMS un mot, voire des idées, à intégrer dans le prochain épisode de sa web-série. Pour ce faire, je vais vous joindre un extrait de la vidéo. Et en 2024, en écho à la dernière anthologie imaginaire, nommée « Double jeu », EMS et moi-même avons un projet de lecture interactive « Double jeu ».
Allez-vous partir par les escaliers pour tenter de distancer vos assaillants? Si c'est ce que vous souhaitez faire, réagissez d'un pouce en l'air à la vidéo. Si vous préférez attendre l'ascenseur, en vous cachant dans le couloir pour vous glisser derrière les policiers, réagissez d'un cœur. Quoi qu'il en soit, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette histoire dont vous êtes les héros.
Après cet avant-goût d'une web-série avec plusieurs destinations au choix, repartons dans Différentes Destinations, cette fois de David Hallyday en 90. Bon, vous m'excuserez mon anglais hésitant. Un extrait de son album qui pulse, Rock'n Earth. Le meilleur de toutes les musiques est évidemment retrouvé sur Radio G. Allez, ça va rocker! Yeah.
David Hallyday dans l'imaginaire sur Radio G, on n'entend pas souvent. Hein.
Alors ça, c'est
Sébastien, bizarre. Il va nous chercher des trucs, mais. Alors on va passer l'interview du. Attends, comment tu les appelles?
Bombix Mori Collective.
Interview. Un petit peu commando quand même. Hein. Ouais. T'avais fait ça dans la salle de presse devant un karaoké quand même qui était à 3 mètres. Donc l'interview un petit peu cut.
Oui. Donc j'ai eu le plaisir de les interviewer effectivement. Lors des Utos, alors ce collectif se compose de 4 jeunes auteurs, Jean-Marc, Mathieu, Corentin et Joachim. Ce dernier n'étant malheureusement pas présent lors de l'interview et on a parlé de La Trame, leur premier récit qui a été publié par La Volte le 9 mars 2023.
Ils avaient 2 choix musicaux et j'en ai mis un au milieu de l'interview. On s'écoute ça tout de suite dans l'imaginaire sur le 101.5.
On est assez rapidement parti sur du végétal déjà. C'était quelque chose qui nous tenait pas mal à cœur. En plus, justement, Joachim, qui n'est pas là, venait de se relancer, de se reconvertir en termes d'études dans des études de
botanique,
tout simplement.
De biologie. Ouais.
De biologie, ouais. Donc c'est vrai que ça nous a aussi aiguillé. Les marées à proprement parler, bah, comme on est 4 aussi, chacun, à un moment ou un autre, va faire des apports. La question de la marée, par exemple, donc le thème un peu océanique de cet univers, c'est Corentin, en l'occurrence, qui a beaucoup de...
Oui, après.
D'expérience en voile.
Partager la paternité des choses.
Mais, et ce qui était intéressant dans le végétal, c'est que c'est des catastrophes qui, en partie, pouvaient être fécondes. Quoi. C'est-à-dire que c'est pas simplement quelque chose qui déferle sur les humains et qui les détruit, mais là-dedans, il y a des espèces de spécimens qui émergent, des poussées végétales qui sont utiles pour les hommes, pour se nourrir, s'habiller. Et c'est cette ambiguïté-là qui nous semblait intéressante. Quoi.
C'est une inspiration aussi des algues vertes, peut-être
ça pourrait. Je pense que l'une des inspirations, alors qu'on en a repensé un peu après coup, mais c'était quand même pas mal le monde de Nausicaa là-dessus, avec la question des sports. Et puis surtout, en fait, ce principe des marées, ça nous permettait d'avoir un principe fondamental en fait pour notre monde qu'on allait pouvoir après dérouler, décliner, travailler quoi.
D'accord.
Et ouais, pour revenir sur les algues vertes, ce serait presque un peu l'inverse, c'est-à-dire que les algues vertes sont le produit d'une surindustrialisation,
une anthropisation trop forte de l'environnement,
de l'élevage, de l'agriculture. Donc c'est un produit de l'homme quoi, alors que là pour le coup ces marées végétales conduisent l'homme à devoir adopter une vie assez risquée, enfin, ou assez protégée. Donc c'est-à-dire que la plupart des hommes sont regroupés dans des cités-états pour éviter ces assauts-là. Et nous, le peuple de la trame, au contraire, va essayer de frayer en fait son chemin dans ces catastrophes-là.
D'accord. Et pouvez-vous nous parler de la dimension politique que vous évoquez également?
C'était ouais, Corentin, d'ailleurs, à l'occasion de la toute première table ronde qu'on a faite. Non, mais t'avais dit un truc qui, moi... tout ce qu'on écrit est politique, effectivement, quand on écrit c'est politique, c'est
ouais,
un acte politique.
En plus la SF, ouais.
Bah oui, et bah déjà l'avantage en plus de la SF, c'est que ça nous permet d'avoir beaucoup de liberté dans les thèmes qu'on souhaite explorer. Et du coup, c'est aussi un truc sur lequel on s'est toujours retrouvé depuis 15 ans qu'on est copains, politiquement parlant. Alors on s'engueule systématiquement sur des points de détail, mais globalement on est quand même relativement d'accord. Et donc là, en l'occurrence, par exemple, la trame, c'est quand même une espèce d'allégorie un peu clairement anarchiste. Et donc c'est des thèmes politiques qui nous parlent beaucoup, en fait, cette question d'ordre, mais sans chef.
Oui.
Justement, c'est pas un désordre non plus, c'est à la fois très organisé et très bordélique, ce qui nous ressemble un peu, d'ailleurs, au passage.
Mais je crois qu'il y a aussi une dimension qui est un projet de société en creux, quoi, c'est-à-dire qu'on parle d'un peuple où il y a une liberté qui est en fait assez totale, effectivement, mais aussi une solidarité organique qui est très très forte entre les membres, et qui est quelque chose où cette liberté ne signifie pas non plus l'isolement, c'est-à-dire que chacun a son rythme, a son pas, et peut sillonner là-dedans un peu comme il l'entend, et toujours réussir à trouver une place en fait auprès des autres et dans l'agencement et trajectoire quoi. Et nous c'est ça qui nous parlait aussi, c'est comment est-ce qu'on peut être ensemble sans être en fait dévoré par le groupe ou écrasé par le truc et sans non plus avoir simplement une espèce de société de loup solitaire quoi. Trouver l'espèce de cet entre-deux de la meute quoi.
Et là, Jean-Marc devrait parler d'idiorythmie normalement.
Voilà.
Mais est-ce qu'on a le temps? Je sais pas.
Ah bon, vous coupez.
Non, mais oui, en fait, c'est ce que disait Corentin. On a travaillé cette question de l'unité d'une communauté, mais avec le respect de la liberté de chacun, à travers la question du rythme. Et ça, c'était une idée qu'on avait trouvée chez Roland Barthes, qui parle d'idiorythmie, donc c'est-à-dire d'un rythme à soi. Et pour lui, c'est ça une vraie utopie, c'est que dans quelque chose qui fait société, donc qui est vraiment un groupe, qui n'est pas juste des individualités juxtaposées, chacun a quand même peut définir, sculpter son rythme, la façon dont il veut vivre. Et aujourd'hui, on vit dans une société où on nous impose beaucoup de rythmes. Donc dans le travail, on nous impose un rythme, mais même parfois dans la cellule familiale, etc. Et donc on voulait essayer d'imaginer une société où chacun pourra définir son rythme, et donc c'est ce qu'on appelle le pas. Et donc il y a des familles de pas comme ça, on a des forceurs ou des forceuses qui sont devant eux, qui aiment bien un peu qui aiment bien aller vite, qui sont un peu dans la frénésie. À côté de ça, on a aussi des dérivants et des dérivantes qui eux vont avoir une marche très différente, un peu plus chaotique ou aller s'éloigner un peu de la trame puis revenir comme ça, donc chacun invente un peu son rythme aussi.
Ouais, puis en fait les affinités, les amitiés, même les amours se pensent à travers ces rythmes là c'est-à-dire qu'une histoire qui commence, en fait, c'est deux pas qui finissent par s'agencer, par se trouver à un endroit et par s'accompagner pendant quelques temps. Et donc on a aussi tout un dessin un peu des intimités en fait qui se fait avec ça.
Et du coup, il y a aussi beaucoup de personnages, et notamment un personnage, Angénor, ou Angénor.
Angénor, on l'a toujours pensé comme étant Angénor, nous.
Donc, perd progressivement la vue. Que vouliez-vous illustrer à travers ce personnage? Est-ce qu'il y a quelque chose que...
Tous nos personnages, on les a pensés aussi en termes de trajectoire, pour à chaque fois essayer de dire quelque chose de ce peuple. Et Angénor, c'est une... C'est une trajectoire de sortie d'orbite, quoi. C'est quelqu'un qui a été dans ce peuple, qui a été un ancien forceur, qui a été dans la.
Un héros, en plus,
un héros, peuple, qui a vraiment quelque chose de puissant. Même si c'est un peuple qui n'a pas beaucoup de héros à proprement parler, mais oui. Il a une aura, quoi. Et ouais, pour nous, c'était une manière de traiter, en fait, cette fin de course et de faire la balance avec son protégé, qui est un peu le mentor, Lige, et d'avoir ce jeu entre les personnages qui montent de rapport à la trame, hein, qui la quitte doucement, en tout cas qui perd peu à peu les moyens d'y rester, et l'autre qui arrive dans sa pleine force dans la marche.
Ouais, Angénor a été tout de suite pensé en binôme avec Lige. Enfin, oui, c'était vraiment. Ces deux personnages ont été pensés.
Je pense, c'était les deux premiers du roman.
Et je crois aussi que c'est les deux personnages qu'on a validés en étant canon du récit. Ouais,
ouais. Et en fait, c'est le binôme qui va un peu dynamiser le récit, quoi. C'est-à-dire qu'on va suivre ces trajectoires qui se croisent, donc un pas ascendant de Lige et un pas qui est en train un peu de se défaire, qui est celui d'Angénor. Et c'était aussi une façon, je crois, que chacun de nos personnages vient tester l'utopie. C'est-à-dire que l'utopie doit décrire une société idéale, et donc on voulait, à travers les personnages, essayer de voir jusqu'où ça marchait, quoi. C'est-à-dire que là, on a un personnage qui est atteint d'un handicap, en fait, puisqu'il est en train de devenir aveugle. Et pour que l'utopie fonctionne, quelque part, il faut qu'elle soit capable d'accepter ce genre de personnage qui soit pas rejeté, en fait. Parce que sinon, ça s'inverse en contre-utopie, quoi. Et donc, c'est ça aussi qu'on voulait observer, en fait, à travers cette trajectoire.
Et justement, vous abordiez le travail d'écriture. Est-ce que vous pouvez le détailler davantage?
Alors, je pense que c'est évidemment, parce qu'en fait il n'y a pas tant de collectifs, c'est la question qu'on a le plus entendue depuis le début. Ouais. Et forcément, parce que ça intrigue un petit peu.
Au moins les 15 personnes qui nous ont lu dans le coup.
C'est ça. Mais du coup, on finit par avoir des éléments un peu rodés maintenant.
Alors, ça part de 15 ans d'amitié. Ouais, déjà, on s'est rencontrés sur les
c'est
bancs.
La base.
De la première année en prépa, donc une très forte amitié. Et il y a 8 ans, donc, au moment où on commence tous à s'égayer un petit peu en France pour des raisons professionnelles, familiales, etc., on se retrouve au détour d'une soirée, évidemment légèrement éméché, et on se demande comment garder contact à travers un projet. Un peu de travail en même temps de plaisir. Et donc le groupe d'écriture naît à ce moment-là, à 4, donc, avec Joachim, tu nous manques, Joe. Big up. Et on va reparler de règles. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, on commence à écrire des récits, des nouvelles, plus ou moins étayées, détaillées, qui commencent certaines à faire canon, on se les envoie toutes les 2-3 semaines en gros. telle chose fait le cut, ça d'accord, ok, cette idée-là elle est géniale, bah je m'en parle, la marée verte, ok, trop bien, ça vient peupler le monde. Telle ville, les Robat, la capitale donc de l'Eria, cet univers, ok, trop bien, bon nom, bon principe, avec les questions des archives qu'on n'a pas encore trop explorées mais qu'on compte peut-être un jour explorer. Ouais. Et donc au fur et à mesure, on peuple comme ça cet univers.
Et en fait, il y a une espèce de communauté créative, intellectuelle qui s'est faite. Alors, on a déjà une complicité de base, hein, mais justement, c'est quand quelque chose était proposé comme ça, c'était assez fréquent, en fait, de justement le mois d'après, de retrouver des choses qu'on avait amorcées, développées dans un texte de l'autre et interprétées. Et donc, en fait, on a fini par se créer une espèce de matière commune dont on est rôliste à côté en plus, donc on avait un peu l'envie de pouvoir en faire quelque chose. Et en fait, les textes ont été de plus en plus aboutis. Jusqu'au moment où on a contacté du coup ce qui est devenu notre maison édition, la Volt, à l'époque on ne savait pas encore, et qui nous ont informé qu'il y avait donc cette collection Utopia sur l'utopie et qu'on pouvait tenter notre chance. Et là, on s'est retrouvés, on a commencé à poser les bases et on est rentré dans le dur de la collaboration. Quoi.
Ouais. On s'est fait une commande tout seul d'ailleurs, au passage.
Ouais, ça a marché.
Ça a trop bien marché.
Et ouais, du coup, il y a eu plusieurs phases. Là encore, on a recommencé en s'envoyant des textes un peu en se disant comment on fait une utopie dans un monde qui est aussi hostile en fait, parce qu'on ne l'avait pas du tout créé pour ça. Donc on a trouvé un peu les débuts de cette communauté, quelques personnages, et à chaque fois on gardait ce qui nous intéressait, on prolongeait ou pas. On a eu quelques moments où on s'est retrouvés vraiment, on a fait quelques jours dans un monastère par exemple, où là vraiment on s'est dit bah voilà, ce personnage il va de là à là. On avait fait c'était sur un grand tableau noir d'école quoi, donc à la craie on faisait tout le schéma du récit. On a relu aussi les premiers textes qu'on avait, donc avec un travail à quatre sur bah voilà, ça c'est trop long, il faut changer le rythme, des choses comme ça. Et après c'est reparti, on a essayé de remplir un peu les trous quoi qu'on avait.
Ouais. Puis, beaucoup à distance quoi, donc en utilisant Discord ou autres moyens pour se faire quelques réunions de temps en temps et après chacun a son rythme aussi quoi.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, et c'est aussi quand tu disais qu'il y a aussi quelque part, alors c'est un peu cliché mais un peu de nous dans la trame, chacun a son rythme, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de moments d'écriture où certains, moi le premier par exemple, pour des raisons personnelles ou d'envie ou de fatigue, quelle qu'elle soit, par exemple on écrivait moins, et donc bah, notamment la fin du récit, il a été tiré par Jean-Marc et Corentin là, qui sont attelés à la charrette et qui l'ont tiré devant quand Joachim et moi par exemple on était un peu plus dérivant nous-mêmes.
On s'auto-référençait aussi par rapport au récit, c'est qu'on, avec Jean-Marc on parlait du fait de blinder.
Voilà, il y avait deux blindeurs, deux dérivants.
Il y avait en bas de la trame à des moments. Quoi. Puis toujours Mermoire aussi, Harry Canet dans le fond
des affaires. Finalement, c'est un récit qui vous représente aussi en tant qu'individu.
Oui, accidentellement, je crois.
Ouais, en fait. Oui, c'était pas, enfin, voulu, c'était pas pensé. Ouais. Mais... On l'a pas pensé et théorisé dès le début. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte de la chose.
Ouais, non, mais c'était un truc qui était très beau à voir aussi, c'est comment en fait cette utopie, c'était aussi notre utopie à nous, quoi. C'est en tant que collectif, on aimerait que cette et on a essayé d'illustrer ça, qu'une création collective soit possible avec chacun son rythme, chacun son pas, chacun son écriture, voilà. Et en allant vers cet objectif commun qui est le livre, et on espère que le lecteur ou la lectrice peut sentir ça, quoi.
Ah bah oui, ça se sent.
I am the halls of the kings who are gone. Jenny would dance with her ghosts, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most, the ones who'd been gone for so very long, she couldn't remember their names. They spun her round on the damp old stone, spun away all her sorrow and pain, and she never wanted to leave. The snow that swept through the hole, from winter to summer and winter again, till the walls did crumble and fall, and she never. I am the hose of the kings who are gone. Jenny would dance with her ghosts, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most.
Comment est né ce nom de groupe
Des heures de prise de tête.
C'est des jours de prise de tête. Beaucoup plus long que d'écrire les livres.
C'est ça. On s'est plus engueulé sur le nom que sur les...
On est passé à travers différents noms qui, pour des raisons de contexte et affaires politiques, qu'on a dû laisser tomber au fur et à mesure. Pendant un temps, on s'est auto-référencé comme étant La Trame, sauf que du coup, on n'avait plus de titre de bouquin, ce qui était encore pire. Donc on a dit non, ça sera le titre du bouquin.
C'est La Trame par La Trame.
Voilà, c'était un peu compliqué.
Pendant un moment, on était L'Accordé, mais cette expression a été reprise par quelqu'un qu'on n'aime pas trop au niveau politique, donc du coup on s'est débaptisé L'Accordé de nous-mêmes.
T'avais aussi des espaces de coworking qu'on ouvrait partout qui étaient L'Accordé, donc on les voyait en passant.
On veut pas être associé.
Et donc
à ça.
Le Bon Bix mourit pour deux raisons. La première, donc c'est le papillon qui donne les vers à soi en fait. Et donc on a tout un jeu filé autour justement du textile, du tissage en texte qui sont effectivement les éléments de mémoire de ce peuple, comme pas vraiment tradition écrite ou orale. Donc ça permettait de faire un jeu là-dessus. L'autre point, c'est que on s'est tous rencontrés, on étudie il y a 15 ans, à Lyon. Et qu'à Lyon, il y a l'une des collines qui est la Croix-Rousse, sur laquelle il y avait historiquement les canuts. Et donc les soieries de Lyon, ouvriers, révoltés, puis matés et tout ça. Donc c'est à la fois un clin d'œil à notre travail et à nos origines.
Et il y a beaucoup d'influence également, d'influence d'écriture. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Pour les lecteurs qui sont familiers de l'imaginaire, sera assez évidente, qui est celle d'Alain Damasio, qui est en plus publié dans la même maison d'édition, et qui a été une de nos références communes importantes, dont on a beaucoup parlé entre nous, de ses différents romans, et avec souvent une forme d'admiration, parfois quelques critiques aussi, mais en tout cas c'était un terreau commun qu'on avait, qui permet aussi de faire que... On a un style à peu près homogène, je pense, dans ce livre-là. Donc voilà, avec des différences quand même, hein, puisque pareil, donc c'est plutôt l'art du contrevent qui nous a inspirés. Là, on décrit vraiment un peuple, donc c'est plusieurs milliers de personnes. Il s'agit pas de contrer le vent, mais il s'agit de cueillir dans des marais. Donc il y a quelque chose où on va trouver des denrées, des produits, et pas simplement s'opposer au vent. Et puis c'est une société, nous, qu'on veut, donc assez anarchiste, où les positions peuvent changer. Donc on peut changer de pas, on peut passer de dérivant à forceur, on peut changer d'artisanat, on va apprendre à faire du textile, etc.
Et revenir plus tard aussi.
Et tandis que dans la Horde, c'est une société qui est très fonctionnaliste, quoi. C'est-à-dire que chacun a sa place et n'en change pas. Donc celui qui est devant Golgoth, il sera toujours Golgoth, sera toujours le mec devant. Et ils ont été dressés pour ça presque dès l'enfance. Et donc voilà, nous on voulait une utopie qui ne fonctionne pas comme ça pour le coup.
Après, il y a d'autres influences. Corentin citait Nausicaa. Effectivement, on a baigné tous, beaucoup. On a mûri un peu ensemble. On s'est rencontrés à 18 ans. Donc déjà, avec des bases communes, la BD, le manga et la littérature de l'imaginaire de manière générale, le jeu vidéo aussi. Et en plus, du coup, on s'est créé nos goûts communs à un moment un peu charnière dans la vie. Et donc, ouais, Nausicaa de la Vallée du Vent, des fois, j'ai eu l'impression aussi, presque des mécaniques de gameplay de jeux vidéo,
oui,
dans
oui,
certaines
y a,
scènes.
Il y a des imaginaires.
Un peu de Tomb Raider, presque, dans certaines scènes d'exploration.
Tu vois, même en y réfléchissant, tu vois, dans le... Alors, nous, on n'a pas situé ça dans un des nombreux fertiles sous-genres de la science-fiction spécifique. C'est-à-dire que pour nous, c'est pas... on n'a pas écrit du post-apo, par exemple. Mais il y a quelque chose de l'esthétique post-apocalyptique qui clairement transparaît aussi... parce qu'on va aussi jouer avec des ruines, parce qu'on joue avec une certaine forme de pas de rareté, mais de scarcity, quoi. Enfin,
ouais, mais rareté, du coup,
ouais,
c'est
voilà,
bien.
Ouais, voilà.
Ça va s'emmerder, c'est
plus classe. De l'égalité, quoi, mais voilà.
Et ça, en plus, c'est vraiment la force du collectif, en l'occurrence, ouais. C'est que chacun va effectivement... Donc, on a ce bouillon de culture commun, mais en plus, chacun va arriver avec des dynamiques un peu... Ouais. Propre et sienne, et donc va y mettre va surélever à chaque fois un peu le reste du groupe là-dessus.
Et je pense une dernière influence peut-être à citer qui est le boulot de Baptiste Morisot, qui a bossé notamment sur pas mal sur en fait l'observation des loups et la réflexion autour de société, les rapports entre humains et nature aussi, l'anthropisation, qui a été en fait en toile de fond. Moi, je l'ai lu pendant la rédaction, et aussi bien pour parler de la trame, je parlais de cette espèce de meute entre et entre tout à l'heure, que pour aussi réfléchir à justement ce monde où le rapport homme et nature est complètement inversé, un monde qui est pas anthropisable, quoi, où c'est plutôt l'homme qui est naturé en soi.
Et les projets pour 2024?
2024, ça va être les JO, je pense. Mais...
Ouais, ouais, ouais. Je suis pas sûr. Moi, je suis en paralympique, perso. Mais...
non, mais en fait, on a envie d'écrire dans ce même univers. Donc, pas la suite, hein, ce sera pas la trame, mais de garder cet univers de l'arrière. Parce qu'en fait, on a commencé à le créer il y a bien longtemps. Et,
on a beaucoup de nouvelles déjà prêtes, beaucoup de récits.
L'utopie, un petit truc à côté, en fait. Donc, on va essayer de développer ça. Mais c'est ce qu'on parlait du rythme et du temps. Nos difficultés, c'est qu'on n'habite plus aux mêmes endroits. On a du mal à trouver du temps vraiment pour écrire ensemble. Donc
c'est un travail à côté en plus.
Ouais, mais on, voilà, je pense qu'on va y arriver, mais ce sera clairement pas en 2024, malheureusement.
Bon, on attend avec impatience la suite. Et du coup, on va passer au portrait chinois.
Si, juste, pardon, pour le portrait chinois, c'est une réponse par personne ou une réponse par collectif?
J'ai envie de dire comme vous voulez.
Ouais. Si vous arrivez à chaque fois,
c'est plus drôle de faire.
Voilà.
On essaie de faire un collectif.
Hein. Sinon, on fait des chimères un peu.
Oui, c'est mais ça. Okay, ouais. Une tête de loutre.
Un corps d'ananas.
Alors, si vous pouviez voyager dans l'espace, où iriez-vous?
Wow. Je hésite entre Meudon et Alpha du Centaure.
Meudon, c'est plus loin.
Retrouver la bagnole d'Elon Musk pour lui remettre dans son garage.
Non, mais c'est. Je sais pas, peut-être un truc quand même de grands espaces, quoi.
Ouais.
En vrai, oui, juste l'idée d'exploration, moi ça me tente bien, pas forcément me poser sur une planète machin, mais de le côté New Frontier, un peu comme dans la série Firefly. Justement, pas se poser sur une planète, juste l'exploration est sympa, un peu caravelle.
Comme dériver dans une capsule spatiale avec une bouteille de whisky tous les quatre.
C'est vachement bien.
Ouais,
ça c'est très bien.
Et parfois du reggae en fond.
Pas trop.
Oh putain, une éternité avec du whisky, du reggae.
La belle vie,
au bout de deux jours.
Et si vous pouviez être un personnage de jeu de rôle, justement, lequel seriez-vous?
Ça sent multiclassé, ça.
Bah ouais, parce que le problème, c'est que justement, alors on a notre MJ qui est Corentin, et en plus, derrière, on a chacun, on a beaucoup joué donc avec lui.
Oui, puis en plus, on a une pratique du jeu de rôle qui est pas très porte-monstre trésor, quoi. C'est-à-dire qu'on est pas mal justement dans l'expérience de la fiction partagée là-dessus, donc c'est.
Très roleplay.
Ouais, énormément de RP. Mmh. Bon, quelques lancers de dés, forcément, faut bien que les gens meurent à un moment.
Oui, il est évidemment sadique.
Mais. Ouais.
Moi, j'ai jamais fait de jeu de rôle en mode vampire, et je pense que c'est un truc que j'aimerais bien faire.
Oui, je pense. Tu fous un bon tour à la dent.
Non, j'aime bien ce truc.
Ouais. Ouais, ouais.
Okay.
Après, c'est vrai que de manière générale, je sais pas sur la classe et le personnage, mais on est souvent porté sur des univers généralement un peu dépressifs, post-apocalyptiques.
Oui, ouais. Oui, c'est vrai.
Pour le coup, pas trop porteur d'espoir, contrairement à ce qu'on a pu essayer d'écrire, etc.
Ouais, en même temps, c'est dans cette adversité qu'il y a des moments très très beaux qui se font aussi.
Des moments de bravoure.
Ouais. Ouais.
Entre deux conneries, généralement. Mais...
Oui, toujours.
Et si vous pouviez être une épée magique, comment serait-elle?
Si tu dis Durandal, l'épée de Charlemagne, là, ça fait réac ou
Je sais pas.
Ah ouais, c'est chiant. Ouais,
elles font un caillou en deux au corps de Roncevaux, quand même.
Là, il y a trop de références à la minute. Le portrait chinois va prendre une demi-heure.
Non, je sais pas, mais peut-être un couteau suisse magique, tu vois.
Un truc qui fait poète.
Non, mais comme ça, tu peux aussi déboucher la bouteille, tu peux couper le saucisson.
C'est vrai,
tu peux. Voilà, tu peux.
En soi, le couteau suisse.
Est-ce que tu trouves que tu seras utile au monde? Si, t'as
en tant que couteau suisse magique,
tu vois.
Moi, je pense que tu peux faire des folies.
Ouais.
Non, regarde, enfin, tu vois, il y en a bien qui font ça avec un tournevis, tu vois. Donc.
Et bien, pour finir, quelle musique choisissez-vous pour accompagner cette interview?
Bah, alors déjà, en préambule, il faut qu'on dise un truc, c'est que moi, j'adore le reggae et le ska.
Il fait chier, merde, 15 ans avec ça.
Et eux n'écoutent que de la musique moyenne.
C'est-à-dire tout le reste.
Genre les Pink Floyd, moi, ça me saoule. Donc bon, voilà. Donc du coup, il y a un gros clivage là-dessus.
Mais en même temps, il y a des sons qui ont un peu ponctué nos amitiés puis nos écritures. Et je pense qu'il y en a, enfin deux particulièrement. Mais du coup, faut qu'on.
Mais celui qu'on chante le plus bourré ou pour fêter un truc.
En fait, c'est la chanson des nains, le Hobbit de Misty Mountain.
Misty Mountain, dont on avait adoré, et on l'avait apprise. Même Jean-Marc, qui parlait un anglais très moyen à l'époque,
coup,
c'était difficile à apprendre.
Moi, j'ai toujours pas compris les paroles. Hein.
Ouais, mais si t'as fini par cœur, c'est très bon.
Très très bien. Mais du coup, oui, je pense que ce sera vraiment la chanson de ce collectif.
Un peu emblématique du collectif.
Okay. Mais la deuxième aussi, quand même.
Jenny of All Stones, ouais.
Qui vient de Game of Thrones.
C'est très bien aussi. Pareil, avec un truc qu'on a pu chanter au petit matin après des nuits parfois de travail, parfois pas de travail du tout.
Souvent pas de travail.
Et il y a des endroits assez improbables sur le pont d'un bateau ou peu importe.
Encore des trucs très joyeux. Hein, c'est
vrai, ouais, non, mais c'est. Alors que, on est...
J'ai pas l'impression qu'on soit trop dépressos à la base, mais.
Non, mais je pense qu'on compense le taux de bêtises une certaine solennité.
Bah, très bien, je vous remercie de vous être prêté au jeu de cette interview. Merci beaucoup.
Bah, merci à vous.
Merci.
mountains cold to dungeons deep and caverns old. We must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night, the fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light.
Trees like torches blazed with light.